never fear pigeons. Even though I get pissed off, I shit on y'all. We gon' sip champagne.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda Malaika.
Bonjour.
Malaika.
On respire mieux, on respire mieux. Nous sommes avec Livres et Amis sur Radio Galère, mercredi 10 juillet 2024. Dominique, Sonia à la lecture, Tatiana à la technique. Et oui, disais-je, on respire mieux. Ouf! Dimanche dernier, nous avons échappé au pire, mais attendez, il reste du pain sur la planche. Vous avez peut-être vu circuler d'ailleurs un dessin d'humour de Étienne Davodeau. Vous savez, Étienne Davodeau, le graphiste et auteur de BD bien connu, il a fait un dessin dans lequel un genre de cœur de dizaines de personnes dit « ouf ». Et alors ils disent « ouf » en cœur, comme dans une énorme bulle de BD. Ils sont des dizaines rassemblés dans un genre de foule militante. Mais les lettres du mot « ouf » sont constituées de lignes de texte de tout petits caractères qui disent « tout reste à faire, tout reste à faire, tout reste à faire, tout reste à faire ». Alors oui, tout ou presque tout reste à faire. Et nous, oui, nous et vous, nous devons rester attentifs, prêts à agir. Alors que bizarrement, c'est l'été, le moment de la détente et des loisirs. Mais tout de même, restons attentifs. À Marseille, il y aura les épreuves nautiques des Jeux Olympiques. Ça, c'est déjà très embêtant pour aller à la plage, mais enfin bon, c'est pas grave, on va s'en accommoder. Et puis, par contre, il y a, comme l'an dernier, déjà toutes les activités de l'été marseillais. Donc, comme l'année dernière, des jeux, des spectacles, des expos, des films, beaucoup en plein air, en journée ou le soir. Le programme, vous le trouverez sur Internet, donc le programme de l'été marseillais. Dans les bibliothèques et dans les mairies de quartier, il y a aussi des programmes papier. Alors, l'été marseillais, c'est parti. Et autour de Marseille, il y a aussi beaucoup de propositions de festivals, vous le savez, à Martigues, à Arles, enfin en Arles, en Avignon. Et attention quand même, attention à la désinformation sur les grands médias. On vous l'a dit bien souvent, ces grands médias, ils appartiennent au grand capital, à la droite, et ils nous embobinent. Alors nous, on va essayer de rembobiner, c'est-à-dire de ne pas se laisser embobiner, de rester fidèles à Radio Galère et aux radios qui ont quelque chose entre les oreilles, quelque chose à dire de pas idiot et de pas dominant pour justement ne pas bronzer idiot, comme on disait il y a quelques années. À Livres et Amis, désolé, on va vous abandonner un peu. Hein, on ne va pas être là pendant quelques semaines. Justement, on prend du champ par rapport au JO et à un certain nombre de choses. Donc, on va vous laisser des rediffusions. Dans les rediffusions, il y a toujours des infos culturelles un peu décalées, puisque évidemment, les dates sont des dates échues, comme on dit, des mois ou même des saisons précédentes. Enfin, en tout cas, pour maintenant, tenez-vous informés. Il y a d'autres émissions un peu partout qui continuent, d'autres annonces. Et l'été marseillais, ça peut aussi être un été militant. Donc, encore une fois, soyons attentifs, ouvrons grand les yeux et les oreilles à des choses intéressantes et pas aux messages dominants. Et pendant qu'on dit des choses intéressantes, Radio Galère va faire appel à vous pendant l'été, justement, pour vous demander des sous. Pas le moment, vous allez nous dire. Bon, d'accord. On est tous logés à la même enseigne. En fait, Radio Galère a besoin de rénover ses moyens techniques, alors que les charges, toutes les charges courantes ont beaucoup augmenté. Bref, vous entendrez pendant l'été, vous verrez sur le site de Radio Galère des messages qui vous expliquent précisément nos soucis financiers et qui nous disent aussi comment vous pouvez nous aider en participant à une campagne de financement participatif pour nous aider à rénover nos moyens techniques. Et en attendant, sur Livres et Amis, aujourd'hui, on va prendre un petit peu de distance, on va faire une lecture assez ironique, assez décalée. On va lire un livre qui est, je vous disais, ironique, oui, en même temps presque onirique et en même temps assez jubilatoire, un genre de conte picaresque, pardon. À la source philosophique. Alors Sonia me disait qu'elle avait fait de la philosophie à la fac, donc ça va tout de suite lui parler. Notre livre, c'est « Le Vicomte pourfendu » de Italo Calvino. Ça a été écrit dans les années 50, donc on pourrait presque dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas neutre du tout, puisque ce vicomte pourfendu, c'est vraiment un conte philosophique à la Voltaire, on pourrait dire. Parce que Italo Calvino, en fait, est un auteur du XXe siècle, mais avec ce livre, il nous plonge dans... au fond, des difficultés, des absurdités, des contradictions qui sont celles du conte, mais qui sont aussi celles de l'histoire contemporaine au moment où il la vit, précisément au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le vicomte pourfendu, il est en plein dans ces difficultés et ces contradictions, puisqu'en fait, pourfendu, oui, il est coupé en deux, pourrait-on dire. Le vicomte pourfendu, c'est une image, mais c'est aussi dans l'histoire une réalité, puisque ce vicomte qui vient de la région de Gênes, en italien il s'appelle Medardo de Terralba, et en français, donc dans le livre, on l'appellera Médard. Ce Médard de Terralba, il voyage en Europe avec son écuyer, qui s'appelle en italien Curzio, et que le traducteur a choisi d'appeler Courte parce qu'en effet, il voyage en Europe centrale, dans des terres un peu germaniques à l'époque du XVIIIe siècle. Donc ce vicomte de Terralba, il rejoint avec Curzio l'armée du Saint-Empire romain germanique qui, au XVIIIe siècle, est en guerre contre les Turcs. Et il chevauche à travers la plaine de Bohême, donc en pleine Europe centrale germanophone. Ce qui arrive de très désagréable, vous le verrez, vous l'entendrez plutôt à la lecture, c'est que notre pauvre vicomte, désarçonné, inexpérimenté, mais toujours téméraire, affronte les canons armés de son seul sabre. Il est frappé par un obus. Et à l'issue de la bataille, on ne retrouve sur le champ de bataille qu'une moitié de son corps. Il est donc pourfendu au sens où il n'y a qu'une moitié de son corps qui va revenir à la maison, comme on dit. Donc évidemment, c'est un peu surprenant. C'est là que commence le récit onirique et le récit fantastique du conte, bien sûr. Il y a toujours dans le même domaine fantastique un certain nombre de personnages un peu bizarres, un peu rigides, un peu fantaisistes, etc. En tout cas, pas du tout du quotidien. Et puis, le récit est fait par le neveu du vicomte, qui est, on le verra dans la présentation du texte, un enfant d'une dizaine d'années. Et évidemment, ça ajoute au décalage, puisque le récit vu et conté par les yeux de l'enfant, ça fait tout de suite ressentir, vous vous en rendrez compte, les absurdités des situations. On va peut-être s'arrêter là pour la première partie de la présentation, et puis on reviendra sur la suite, une fois qu'on aura lu déjà un certain nombre d'aventures du vicomte et de ce qu'il fait en rentrant chez lui. Donc, c'est le neveu du vicomte qui prend la parole et qui commence l'histoire. Et c'est Sonia qui commence l'histoire.
On faisait la guerre aux Turcs. Le vicomte Médard de Terralba mon oncle, chevauchait à travers les plaines de Bohême. Il se dirigeait vers le camp des chrétiens. Il était suivi d'un écuyer appelé Kurt. De blancs vols de cigognes traversaient, près de terre, l'air opaque et figé. « Pourquoi tant de cigognes? Où vont-elles bien ?» demanda Médard à Kurt. Mon oncle venait tout juste de s'enrôler pour faire plaisir à certains ducs de notre voisinage qui s'étaient engagés dans cette guerre. Il arrivait. Il s'était muni d'un cheval et d'un écuyer au dernier château resté chrétien et il allait se présenter au quartier de l'empereur. « Les cigognes volent vers les champs de bataille, » lui répondit sombrement l'écuyer. « Elles nous accompagneront pendant tout le chemin. » Le vicomte Médard avait appris que, dans ces pays-là, un vol de cigognes est de bon augure. Il eût voulu se montrer tout content de les voir. Mais il se sentait inquiet malgré lui. Qu'est-ce qui peut bien attirer ces échassiers sur les champs de bataille, Kurt ? Demanda-t-il. Eux aussi se nourrissent de chair humaine, répondit l'écuyer. Maintenant que la famine a rendu la campagne aride et que la sécheresse a tari les fleuves. Là où il y a des cadavres, les cigognes, les phénicoptères et les grues remplacent les vautours et les corbeaux. Mon oncle était alors dans sa première jeunesse, âge où les sentiments n'ont qu'un élan confus dans lequel le bien et le mal ne sont point encore distincts, âge où l'amour de la vie rend chaude et trépidante toute expérience nouvelle, même inhumaine et macabre. « Et les corbeaux ? Et les vautours ? » demanda-t-il. « Et les autres rapaces ? Où sont-ils allés ?» Il était pâle, mais ses yeux scintillaient. L'écuyer était un soldat noirâtre et moustachu qui ne levait jamais les yeux. À force de manger des cadavres de pestiférés, ils ont attrapé la peste eux aussi, dit-il en indiquant de sa lance des buissons noirs qu'un regard attentif révélait fait non de frondaison, mais de plumes et de raides pattes de rapace. On ne peut pas savoir lequel est mort le premier, de l'homme ou de l'oiseau, lequel s'est jeté sur l'autre pour le déchirer, dit Kurt. Pour fuir la peste qui exterminait les populations, des familles entières s'étaient mises en route à travers les campagnes et l'agonie les avait saisies là. Dans des enchevêtrements de carcasses disséminées au travers de la plaine dénudée, on voyait des corps d'hommes et de femmes nus, et ce qui paraissait d'abord inexplicable, couverts de plumes. Comme si de leurs bras et de leurs côtes décharnées, ils avaient poussé des plumes et des ailes noires. C'étaient des charognes de vautours mélangées à leurs dépouilles. De nombreuses épaves de combat parsemaient déjà le terrain. L'allure des deux hommes devenait plus lente, parce que les deux chevaux se cabraient et faisaient des écarts. « Qu'est-ce qu'ils ont donc, nos chevaux ?» demanda Médard à son écuyer. « Monsieur, lui répondit l'écuyer, il n'y a rien que les chevaux détestent autant que l'odeur de leur propre tripe. » En effet, le bout de plaine qu'ils étaient en train de traverser était semé de charognes de cheval, les unes couchées sur le dos, les sabots dressés vers le ciel, d'autres écrasés, le museau dans la terre. « Pourquoi y a-t-il tant de chevaux tombés à cet endroit, Kurt ?» demanda Médard. « Quand le cheval se sent éventré, lui expliqua Kurt, il cherche à retenir ses entrailles. Certains appuient leur ventre à terre, d'autres se retournent sur le dos pour les empêcher de pendre. Mais la mort ne tarde pas à les prendre les uns comme les autres. Alors dans cette guerre-ci, ce sont surtout les chevaux qui meurent. Les cimetières turcs semblent faits tout exprès pour leur ouvrir le ventre d'un seul coup. Les corps des hommes, vous les verrez plus loin. Ce sont les chevaux qui commencent, le tour des cavaliers vient après. Mais voici le camp. On voyait se dresser à l'horizon le pinacle des tentes les plus hautes, les étendards de l'armée impériale et de la fumée. Galopant de l'avant, ils s'aperçurent que les morts de la dernière bataille avaient été presque tous enlevés et ensevelis. On n'apercevait plus que quelques membres épars, en particulier des doigts posés sur les chaumes. « De temps en temps, il y a un doigt qui nous indique la route ?» demanda mon oncle Médard. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Que Dieu leur pardonne ! Les vifs coupent les doigts aux morts pour leur prendre leurs bagues. » « Qui va là ?» leur demanda un sentinelle dont la capote était ouverte de mousse et de moisissures, comme l'écorce d'un arbre exposé au vent du nord. « Vive la sacro-sainte couronne impériale !» cria Kurt. « Et mort au sultan !» répondit la sentinelle. « Mais je vous en prie, lorsque vous arriverez au quartier général, demandez-leur quand ils se décideront à me relever. Je suis en train de prendre racine !»
Donc, vous voyez, ça démarre vraiment fort, dans l'horreur. Mais ça démarre fort dans l'horreur et dans l'absurdité, bien sûr. Il y a tous ces chevaux, tous ces soldats morts qui sont une réalité, mais qui sont décrits d'une façon complètement, comment pourrait-on dire, caricaturale et presque loufoque. Donc, c'est vraiment l'horreur de la guerre. Mais en même temps, pour tourner en dérision l'horreur de la guerre, les caractères précisément caricaturaux et loufoques de ces batailles. Alors, pour nous faire entrer un peu plus dans le vif du sujet, le neveu du vicomte nous dit comment le vicomte rencontre l'empereur et puis comment il va ensuite se reposer avant la première bataille. Le vicomte de Terra Alba fut tout de suite introduit auprès de l'empereur. Dans son pavillon rempli de tapisseries et de trophées, le souverain étudiait sur des cartes géographiques le plan des batailles à venir. Les tables étaient encombrées de cartes déroulées, l'empereur y plantait des épingles. Il les prenait sur une pelote que lui tendait un de ses maréchaux. Les cartes étaient tellement chargées d'épingles qu'on n'y comprenait plus rien. Et pour pouvoir y lire quelque chose, il fallait enlever les épingles et les replacer ensuite. C'est ainsi qu'à force d'ôter et de remettre, pour conserver leurs mains libres, comme des couturières, aussi bien l'empereur que les maréchaux gardaient les épingles entre les lèvres et ne pouvaient plus parler que par grognement. Ils devaient avoir un peu de mal à se comprendre. « Ah, un chevalier vient d'arriver d'Italie, Majesté !» C'est ainsi qu'on présenta Terra Alba. « C'est une des plus nobles familles du pays génois. » L'empereur répondit « Qu'il soit nommé sur le champ lieutenant !» Mon oncle, au garde à vous, joignit les talons, cogna ses éperons, et tandis que l'empereur faisait un geste royal et que toutes les cartes de géographie s'enroulaient sur elles-mêmes et se dégringolaient, la réunion continuait quand même. Cette nuit-là, bien que fatigué, Médard se coucha tard. Il avait marché de long en large près de sa tente. Il avait entendu l'appel des sentinelles, le hennissement des chevaux, les paroles entrecoupées de quelques soldats endormis. Il avait regardé le ciel, il avait vu les étoiles de Bohême, pensé à son nouveau grade, à la bataille du lendemain, à sa patrie lointaine. Enfin, pour lui, toutes ces choses étaient encore intactes et nouvelles. S'il avait prévu le terrible sort qui l'attendait, finalement, peut-être l'eût-il trouvé aussi naturel que tout le reste du paysage qui l'entourait et qui était une vraie nouveauté. Il sentait le sang de cette guerre cruelle, répandue sur la terre en des milliers de ruisseaux. Il affluait vers lui et le sang venait lui lécher le corps. Mais il ressentait tout ça sans pitié et les yeux fermés. Alors, le lendemain, c'est la bataille. Qu'est-ce qui se passe à la bataille du lendemain? Eh bien, on va redonner la parole à Sonia pour qu'elle nous raconte, en fait, comment le vicomte se fait pourfendre. Faudra sauter d'ici à la page 18.
La bataille commença ponctuellement à 10h du matin. Du haut de sa selle, le lieutenant Médard contemplait le vaste déploiement de l'armée chrétienne, prête à attaquer, et tendait le visage à ce vent de Bohême qui soulevait une odeur de balles de blé, comme s'il passait sur une aire poussiéreuse. « Ne pensez pas à moi, seigneur, » dit l'écuyer. « Espérons seulement qu'il reste du marc à l'hôpital. Chaque blessé a droit à une assiette à soupe de marc. » Mon oncle Médard se jeta dans la mêlée. Le sort de la bataille était incertain. Dans ce désordre, les chrétiens semblaient prendre le dessus. Il est certain qu'ils avaient crevé le front turc et tourné certaines positions. Mon oncle, et d'autres preux avec lui, avaient poussé jusque sous les batteries ennemies que les turcs déplaçaient pour garder les chrétiens sous leur feu. Deux artilleurs turcs faisaient tourner un canon monté sur roue. Lents comme ils étaient, barbus, emmitouflés jusqu'aux pieds, ils avaient l'air de deux astronomes. « J'arrive et je vais les arranger !» dit mon oncle. Enthousiaste et sans expérience, il ne savait pas qu'on ne doit aborder les canons que de côté ou par la culasse. Lui, sabre au clair, sauta juste en face de la bouche à feu dans l'idée de faire peur aux deux astronomes. Au lieu de cela, c'est eux qui le canonnèrent en pleine poitrine. Médard de Terra Alba sauta en l'air.
Ah, il a sauté en l'air et donc on doit nous dire après qu'il ne nous reste plus qu'une moitié. Le soir, au moment de la trêve, deux chars passaient dans le champ de bataille, ramassaient les corps des chrétiens d'un côté, des turcs de l'autre. L'un était pour les blessés et les morts chrétiens, l'autre était pour les blessés et les morts turcs. Et puis après, dans chaque char, on faisait le tri de ce qu'on avait ramassé sur le champ de bataille. ceux qui devaient être enterrés étaient basculés dans des fosses. Et ceux qui avaient encore quelque chose à sauver, on les emmenait dans des brancards, on les emmenait alors que souvent il ne restait plus que des quartiers ou des lambeaux de chair. On les emmenait dans des brancards, livrés aux chirurgiens. Et les autres, bah oui, il fallait laisser le moins possible en pâture aux cigognes. Ce jour-là, vu l'abondance des pertes, on avait beaucoup de mal à organiser les restes des blessés. C'est ainsi que les restes de Bénard furent considérés comme un blessé et placés vers les ambulances. À l'ambulance, on retira le drap qui couvrait le vicomte et on vit son corps effroyablement mutilé. Non seulement il lui manquait un bras et une jambe, mais tout ce qu'il y avait de thorax et d'abdomen entre ce bras et cette jambe avait aussi été emporté, pulvérisé par le coup de canon à bout portant qu'il avait reçu. Et pour la tête, il n'en restait qu'un œil, une oreille, une joue, la moitié du nez, la moitié de la bouche, la moitié du menton et la moitié du front. De l'autre moitié, finalement, ne subsistait rien. Pour résumer, il ne demeurait plus qu'une moitié de lui, la moitié droite. Du reste, parfaitement conservé, pratiquement sans une égratignure, à part l'énorme déchirure qui l'avait séparé de l'autre moitié que sans doute on n'avait pas ramassée. Les médecins étaient ravis. Quel cas magnifique! S'il ne mourait pas sur le champ, bah, finalement on allait essayer de le sauver. Et tous de s'occuper de lui, pendant que d'autres soldats qui n'avaient reçu qu'une flèche mouraient de septicémie parce qu'on ne s'occupait pas d'eux tout de suite. Alors, à Médard, ils firent des applications, des coutures, enfin, Dieu sait ce qu'ils firent. Mais en tout cas, le lendemain, mon oncle ouvrait son unique œil, sa demi-bouche, dilatait sa narine et respirait. C'était la forte fibre des Terralbes qui avait tenu. Mais maintenant, vivant, le vicomte était pourfendu. Et c'était sa moitié droite qui avait survécu. Alors, on va voir ce que ça donne, la survie de la moitié droite, là. On va voir ce que ça donne quand le vicomte rentre chez lui. Donc, on va demander à nouveau à Sonia de nous raconter ce qui se passe. Au fil des lignes, il faut lire ce qui est surligné, souligné. Ah, je suis désolée. Je lui ai donné la mauvaise page. Voilà, ça commence avec le chapitre ici.
J'avais 7 ou 8 ans quand mon oncle revint à Terralbes. C'était un soir. Il faisait déjà sombre. On était en octobre, le ciel était couvert. Dans la journée, nous avions vendangé. À travers les cordons de vigne, nous nous voyions approcher sur la mer grise les voiles d'un navire battant pavillon impérial. À cette époque, dès qu'on apercevait un navire, on disait « C'est Maître Médard qui revient ». Non pas que nous fussions impatients qu'il revînt, mais il fallait bien avoir quelque chose à attendre. Cette fois-là, nous avions deviné juste. Nous en eûmes la preuve le soir, quand un jeune homme, nommé Fort Fier, qui voulait le raisin, se mit à crier de la cuve. « Oh, là-bas !» Il faisait presque noir, et nous vîmes au fond de la vallée une file de torches s'allumer le long du sentier muletier. Puis, quand le cortège passa sur le pont, nous distinguâmes une litière portée par des hommes. Pas de doute, c'était le vicomte qui revenait de la guerre. Le bruit se répandit dans toutes les vallées. Les gens s'attroupèrent dans la cour du château. Familles, domestiques, vendangeurs, bergers, hommes d'armes. Tandis qu'on attendait, tout le monde parlait de l'état dans lequel revenait le vicomte Médard. Il y avait longtemps qu'on était informé que les Turcs lui avaient fait des blessures graves, mais nul ne savait encore de façon précise s'il était mutilé ou infirme, ou simplement défiguré par des cicatrices. Maintenant, le fait d'avoir vu cette litière nous préparait au pire. Et voici qu'on posa la litière à terre et qu'au milieu de l'ombre noire, on vit une pupille briller. La grande vieille nourrice Sébastienne fit mine de s'approcher, mais dans l'ombre, une main se leva pour faire un geste dur de refus. Puis on perçut le corps de la litière agité d'un effort anguleux et convulsif. Et devant nous, Médard de Terralbes bondit sur pied en s'étayant d'une béquille. Un manteau noir à capuchon descendait de sa tête jusqu'à terre. Du côté droit, ce manteau était rejeté en arrière, découvrant la moitié du visage et la moitié du corps, agrippé à la béquille. À gauche, tout semblait caché, enveloppé dans les plis et replis de cette vaste draperie. Il s'arrêta pour nous regarder, nous qui faisions cercle autour de lui, sans mot dire. Mais peut-être aussi son œil fixe ne nous regardait-il pas du tout, voulait-il simplement nous écarter de lui. Une bouffée de vent monta de la mer, une branche cassée gémit à la cime d'un figuier. Le manteau de mon oncle ondula, le vent le gonfla, le tendit comme une voile et sembla traverser le corps. Bien mieux, on eût cru que ce corps n'existait même pas, que le manteau était vide, posé sur un fantôme. En regardant mieux, nous vîmes qu'il adhérait au vicomte comme à la hampe un drapeau. La hampe, c'était l'épaule, le bras, la hanche, la jambe, tout ce qui, de lui, s'appuyait sur la béquille. Le reste n'existait pas. « Mon fils !» cria la nourrice Sébastienne en levant les bras. « Pauvre petit malheureux !» Contrarié de nous avoir fait une impression semblable, mon oncle posa le bout de sa béquille devant lui sur le terrain et d'un mouvement de compas s'élança vers l'entrée du château. Mais les porteurs de sa litière s'étaient assis, les jambes croisées, sur les marches du portail. Deux vilains bougres à demi nus avec des boucles d'oreilles d'or et des mèches de cheveux faisaient crête sur un râne rasé. Ils se levèrent et l'un des deux, qui portait une natte et semblait le chef, lui déclara « Nous attendons notre salaire, seigneur. »« Combien ?» demanda Médard et on eut l'impression qu'il riait. L'homme à la natte lui répondit « Vous savez, le tarif pour le transport d'un homme en litière. » Mon oncle décrocha une bourse de sa ceinture et la jeta, sonnante, aux pieds du porteur. Celui-ci la soupesa à peine et déclara « Mais c'est beaucoup moins que la somme convenue, seigneur !»« La moitié !» dit Bénard, tandis que le vent relevait les pans de son manteau. Il enjamba le porteur à cloche-pied, entra par la porte grande ouverte qui conduisit à l'intérieur du château, poussa à coups de béquille les deux lourds battants qui se refermèrent avec fracas, et comme le portillon restait encore ouvert, le claqua et disparut. Nous continuâmes d'entendre à l'intérieur les coups sourds et alternatifs de son pied et de sa béquille se dirigeant le long des corridors vers l'aile du château où étaient ses appartements privés, et là encore claquer et verrouiller les portes. Immobile derrière les barreaux de la volière, son père l'attendait.
Donc le vicomte est rentré, mais il est pourfendu et il a bien changé. Il a l'air mauvais. Et cet air mauvais, il va le garder. Alors Sonia vient de nous dire que son père, en effet, le vicomte en titre, l'attendait en principe impatiemment. Et ce vicomte en titre qui s'appelle Aïulf, il est passionné d'oiseaux. Il vit en effet avec ses oiseaux préférés dans sa volière. Mais le vicomte pourfendu va ne pas s'occuper du tout de son père dans sa volière. Il va le négliger totalement. Et le vieil homme dans sa volière va très mal prendre les choses. Il n'y a plus finalement pour s'occuper de Médard que sa vieille nourrice. On a vu que Sébastienne s'était exclamée du retour du vicomte. Et Sébastienne va continuer, bien sûr, à essayer de communiquer avec le vicomte au château. Le lendemain, comme Médard continuait à ne pas donner signe de vie, nous et les paysans, nous nous remîmes à la vendange. Mais nous n'avions plus de gaieté. Et dans les vignes, on ne parlait que du destin du vicomte. Nous, qu'il nous tint véritablement beaucoup à cœur, mais c'était un sujet obscur et attrayant. Seule la nourrice Sébastienne était restée au château, épiant attentivement tous les bruits de vie que pouvait donner le vicomte. Mais le lendemain matin, quand la nourrice se présenta devant la volière, puisqu'elle s'occupait aussi du vieux vicomte, elle vit que le vicomte Aïulf était mort. Il n'avait pas supporté ce retour si froid et terrible de son fils. Les oiseaux, ses oiseaux, tous ses oiseaux s'étaient posés sur son lit autour de lui, comme sur un tronc flottant au milieu de la mer. Donc, horreur à nouveau et poésie quand même se mêlent dans ce chapitre du retour au château. Et on va continuer un petit peu dans le même ordre d'idées. Le retour, mais le maintien du travail quotidien, mais la mort du père, mais les accidents, on pourrait dire, qui vont émailler la reprise de la vie au château autour du vicomte. Et finalement, avec le retour du vicomte, c'est un peu comme si l'horreur de la guerre s'installait sur les terres pourtant paisibles de Terralba, parce que le vicomte, avec sa moitié droite, a rapporté l'horreur avec lui. Il a rapporté finalement comme un message délabrement du monde qui est revenu avec lui de la guerre. Alors, on va reprendre, mais on va d'abord mettre un petit peu de musique. Je voulais vous mettre de la musique génoise, puisque le vicomte vient de la région de Gênes. Puis, je n'ai pas trouvé de choses vraiment merveilleuses. Donc, comme on est au XVIIIe siècle dans l'histoire, dans un conte un peu magique du XVIIIe, on va garder une petite idée de musique du XVIIIe avec le Rondo Veneziano qui nous parle de Casanova. Alors, évidemment, le vicomte, il n'est peut-être pas séducteur comme Casanova, avec la seule moitié qui lui reste. Mais on verra tout à l'heure qu'il séduit quand même. Et en attendant, donc, Rondo Veneziano. Rondo Veneziano, oui, c'est une musique du 18e, un peu revue et corrigée. Donc, c'est exactement l'idée qu'on avait envie de donner de ce conte philosophique qui raconte une histoire en principe se déroulant au 18e, mais complètement métaphorique de ce qui s'est passé au 20e siècle. Et Italo Calvino, qui a eu une vie aussi un peu perturbée par moments, s'attache à nous raconter l'histoire du vicomte pourfendu parce que c'est vraiment une espèce de, je sais pas, d'histoire. Alors, on a parlé de conte philosophique, bien sûr, mais c'est presque une histoire de science-fiction. Vous savez, un peu comme dans les histoires de science-fiction où ce qui est raconté permet de parler de la société dans laquelle on est. Et de montrer, en l'occurrence, là, à propos du vicomte pourfendu, à la fois les horreurs et les absurdités de cette société italienne, en l'occurrence, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a subi la violence, qui a subi le fascisme et qui a bien du mal à entrer à nouveau dans une réalité du quotidien qui convienne à peu près à la population. Donc on va reprendre avec la lecture de Sonia comment la vie reprend justement dans le domaine de Terre Alba, mais de façon très perturbée avec ce retour du comte dont la moitié droite va finalement semer la terreur par moment, l'horreur par moment, et en tout cas être complètement déstabilisante pour les habitants qui sont là autour de lui.
Après la mort de son père, Médard commença à sortir du château. C'est encore la nourrice Sébastienne qui s'en aperçut la première, un matin, quand elle trouva les portes grandes ouvertes et les pièces désertes. On envoya une équipe de serviteurs suivre les traces du vicomte à travers la campagne. Les serviteurs couraient. Ils passèrent sous un poirier qu'ils avaient vu la veille, couvert de fruits tardifs encore verts. « Regarde là-haut !» dit un des domestiques. Ils virent les poires qui pendaient devant un ciel blanchâtre et furent pris de terreur. Elles n'étaient pas entières, c'étaient des moitiés de poires suspendues à leur queue, mais coupées en long. Il ne subsistait de chaque poire que la moitié de droite, ou celle de gauche, suivant l'endroit d'où on les regardait. Mais elles étaient toutes coupées du même côté. L'autre moitié avait disparu, sectionnée ou peut-être happée à belles dents. Le vicomte a passé par ici, dirent les domestiques. Certainement qu'après avoir été enfermé à jeun des jours et des jours, il s'était senti faim et était monté sur le premier arbre rencontré pour manger les fruits. En continuant, les serviteurs rencontrèrent sur une pierre une demi-grenouille restée vivante et qui sautait encore de par cette force particulière qu'ont les grenouilles. « Nous sommes sur la bonne piste, » dirent-ils. Et ils continuèrent. Ils s'égarèrent parce qu'ils n'avaient pas aperçu au milieu des feuilles un demi-melon. Il leur fallut retourner sur leurs pas jusqu'à ce qu'ils le vissent. En suivant ces traces disséminées, les domestiques arrivèrent auprès des nonnes où il y a un étang au milieu de l'herbe. C'était l'aurore. Au bord de l'étang, la mince silhouette de Médard, enroulée dans son manteau noir, se mirait dans l'eau, où flottaient des champignons blancs, jaunes et couleur de terre. C'étaient les moitiés de champignons qu'il avait emportés. Elles étaient éparses à présent sur cette surface transparente. Sur l'eau, les champignons semblaient entiers, et le vicomte les regardait.
Ouais, Je continue après. L'idée que, bien sûr, il y a des moments où les moitiés reconstituent l'intégralité de certaines choses, comme le miroir de l'eau représente finalement ou permet de reconstituer ici les champignons dans leur intégralité. Donc c'est une espèce de nostalgie du vicomte sur effectivement ce qu'il était avant. Continuons.
Quand on lui raconta l'histoire, la nourrice Sébastienne prononça : C'est la mauvaise moitié de Médard qui est revenue. Qu'est-ce que cela va donner aujourd'hui au procès ?
Eh oui, c'est la mauvaise moitié de Médard qui est revenue. Et dans la suite, il y a un procès, dans la mesure où le seigneur applique la justice seigneuriale. Et puisque Sébastienne vient de constater que c'était la mauvaise moitié de Médard qui était revenue, on l'appelle d'ailleurs sur place l'infortuné, qu'est-ce qui va se passer quand il va rendre la justice en tant que seigneur ?
Et les appréhensions de la nourrice Sébastienne étaient fondées. Médard condamna Forfier et toute sa bande à être pendus comme coupables de rapine. Les volés s'étant eux-mêmes rendus coupables de braconnage, il les condamna eux aussi à la potence. Et pour punir les sbires d'être intervenus trop tard et de n'avoir su prévoir ni les méfaits des braconniers ni ceux des brigands, pour eux aussi, il décréta la mort par pendaison.
Donc l'arbitraire seigneurial, l'arbitraire du pouvoir en place, lorsqu'il est exercé par, en plus, la mauvaise moitié, est encore plus terrible, bien sûr, que l'arbitraire général, on pourrait dire, de l'Ancien Régime, ou l'arbitraire général de la société du XXe siècle à nouveau, puisqu'il suffit qu'un dictateur, quelque part, c'est ça dont il s'agit, un seigneur tyrannique, exerce son pouvoir pour que des populations ou des parties de population comme celle-ci soient condamnées. Sébastienne a donc bien fait le diagnostic de ce qui se passe. La mauvaise moitié du seigneur est rentrée et cette mauvaise moitié va en fait faire régner la terreur par moment sur la propriété. Il n'empêche que notre narrateur, qui a toujours 8-10 ans à peu près, il continue, lui, à vivre sa vie. Sa vie, c'est aller un petit peu marauder sur le domaine, aller rencontrer ses copains du même âge, aller rendre visite aux uns ou aux autres. Il est très libre, notre narrateur. Il se promène un petit peu à son gré. Et il a un genre d'amis ou de relations privilégiées qui est le docteur Trelawney. Alors, le docteur Trelawney, c'est en fait un médecin anglais qui est venu s'installer là, on ne sait pas trop comment. Et bien sûr, le médecin anglais, c'est une référence aux scientifiques anglais qui étaient à la mode au XVIIIe siècle. L'enfant erre donc dans le domaine, mais le docteur Trelawney lui explique un certain nombre de choses sur la vie et les difficultés. J'étais libre comme l'air parce que je n'avais ni père ni mère et que je n'appartenais ni à la catégorie des serviteurs ni à celle des maîtres. Je ne faisais pas vraiment partie de la famille des Terres Alba, j'étais un neveu arrivé là par une reconnaissance tardive. Je ne portais pas le nom et finalement on n'était pas tenu de m'éduquer. Ma mère était la sœur aînée de Médard, mais c'était une sœur qui n'avait pas été reconnue. Elle avait entaché l'honneur de la famille, elle s'était enfuie avec un braconnier, puis était revenue. J'étais née dans la cabane du braconnier et après que mon père ait été tué au cours d'une rixe et que ma mère soit morte de maladie, j'étais restée vivre au château, accueillie par mon grand-père, par mon oncle, par Sébastienne, mais, comme je le disais, libre comme l'air. Je prenais part aux jeux de tous et surtout à ceux des petits paysans. Et puis il y avait dans le domaine une communauté de huguenots. Une communauté de huguenots dont les enfants étaient aussi très indépendants parce que les parents ne voulaient pas intervenir dans leur relation avec le Seigneur. Alors, finalement, en ce temps-là, mon oncle, qui continuait à circuler dans le domaine à cheval, était sur son cheval attaché à un des étriers et sur l'autre, il se retrouvait équilibré par contrepoids. Il avait d'un côté une épée, de l'autre sa béquille. Et c'est ainsi qu'il chevauchait et que je le croisais régulièrement, coiffé d'un chapeau empanaché à large bord, dont la totalité faisait disparaître la moitié du visage encore existant. On entendait les sabots du cheval, tout le monde se sauvait parce qu'on avait vraiment peur, et tous, les paysans, les huguenots, même les lépreux qui vivaient en bord du domaine, fuyaient quand ils entendaient le bruit des sabots du cheval. Et puis, on savait que la méchanceté du vicomte n'épargnait personne et pouvait se déchaîner d'un moment à l'autre, déterminant de sa part les actions les plus imprévues, les plus incompréhensibles et quelquefois les plus terribles. Mon oncle, en particulier, eut la lubie des incendies. Dans la nuit, tout à coup, le fenil de quelques fermes prenait feu, ou bien un arbre qui était là, ou bien du bois coupé destiné en principe à être stocké et consommé. Et ainsi, jusqu'au matin, on devait, de main en main, passer des seaux d'eau pour éteindre les flammes. Les victimes étaient toujours de pauvres diables, qui n'avait eu maille à partir avec le vicomte qu'en raison d'ordonnances sévères et injustes ou de taxes qu'il avait doublées. Donc on éteignait les incendies, mais bientôt il mit même le feu aux habitations. C'était terrible. Il s'approchait des maisons la nuit, lançait des amorces enflammées et se sauvait à cheval. Alors, chez les paysans, la haine augmentait, la haine contre lui, contre ce seigneur qui n'était plus que horreur et injustice. Même son ancienne nourrice, Sébastienne, fut brûlée. Elle fut brûlée, elle s'en sortit très bien, mais Médard voulait l'écarter de lui. Et elle avait quand même encore des taches sur le visage. « Qu'est-ce que ces taches sur votre figure, nourrice ?» lui dit-elle. Ah, ces brûlures, ce sont la trace de tes péchés, mon fils. Tu vois, elles guérissent, mais la trace de tes péchés, elle ne guérira pas. Bédard était très contrarié par ce que lui disait Sébastienne. C'était finalement la seule personne qui s'opposait à lui. Alors il décida que les brûlures, c'était des traces de lèpre et qu'elle irait vivre avec les lépreux au domaine qui leur était réservé à l'extérieur du domaine du château. Elle avait ainsi dû quitter le château un soir au coucher du soleil, tout habillée de noir, dans ses effets noirs, avec un baluchon noir qu'elle portait au bras. Et elle connaissait désormais son destin. Elle devait quitter le domaine du château, elle devait vivre à la lisière. Chacun désormais se retirerait et se cacherait sur son passage. C'est comme ça que le vicomte l'avait écarté. La nourrice avançait à pas longs vers son nouveau domaine et elle savait qu'elle ne reviendrait pas de sitôt au château. C'est pas gai, hein, c'est l'exclusion, c'est la déportation finalement. C'est symbolique de tout un tas de choses, le départ de la nourrice parce qu'elle porte des traces. Donc ces gens qui sont écartés, ces gens qui de plus en plus sont, on pourrait dire, interdits ou déportés sur le domaine du vicomte, ils sont la représentation, là encore, de ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé les années 50, c'est-à-dire justement les horreurs de l'exclusion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand le neveu de Médard va se promener avec les enfants huguenots, il va un petit peu vivre sa vie libre d'enfant, il va faire des bêtises dans les campagnes alentours. Et un des enfants, qui est un chef de bande, disons, lui dit « Mais moi aussi, je suis comme le vicomte, je fais quantité de bêtises, je fais quantité de péchés. Je porte des faux témoignages, j'oublie d'arroser les haricots, je ne respecte pas mes pères et mères, je rentre tard, exprès, à la maison le soir. Et je fais des péchés parce que je veux être condamné. Tout ça, tous les péchés, lui demandai-je. Mais tu ne tues pas. » Et l'enfant répondit, « Non, tuer pour l'instant, ça ne me convient pas, ça ne me servirait à rien. Eh bien, moi, mon oncle, il tue. Et il fait tuer pour le plaisir à ce qu'on dit, lui répondis-je. Et là, l'enfant répondit, mais c'est un plaisir d'idiot. » Donc les enfants, finalement, vivent une vie en effet séparée, mais ils jugent les adultes et à travers eux, bien sûr, l'auteur juge les adultes et les abus de pouvoir du vicomte. Il nous dit encore un petit peu plus loin, le neveu, « Je feignais de ne m'intéresser qu'à la pêche, pour mieux m'éloigner de l'épée de mon oncle. Je ne regagnais la rive qu'une fois de temps en temps, avec mes poulpes sur l'épaule. Finalement, il n'y avait pas beaucoup d'abri contre sa furie pourfendeuse. C'était la terreur qui régnait sur la propriété. » Alors la terreur va s'arrêter un beau jour, ou du moins être en partie contrebalancée par l'arrivée, magique bien sûr, l'arrivée magique de l'autre moitié. Puisque le vicomte pourfendu est rentré du champ de bataille, c'est sa moitié droite qui est rentrée, c'est sa moitié mauvaise, c'est sa moitié infortunée. Et du jour au lendemain, on va s'apercevoir qu'un autre vicomte, ou plutôt une autre moitié de vicomte, circule dans le domaine. Et cette moitié de vicomte, qui est la moitié gauche bien sûr, elle est bonne. C'est l'autre moitié qui va réaliser au fond des actions qui devraient être pour la population des bénéfices sans arrêt. Mais il y aura excès de bonté de la moitié gauche, un petit peu comme il y avait eu excès d'horreur de la moitié droite. Alors, la moitié gauche de Médard, qu'est-ce qu'elle fait ? Agrafée à la selle du cheval, cette moitié de Médard de Terralbe venait aussi escalader, monter, descendre les falaises et se pencher vers les vallées. C'est ainsi qu'il aperçut, ou enfin, qu'elle aperçut la moitié gauche du vicomte, la bergère Pamela entourée de ses chèvres au milieu d'un pré. Le vicomte se dit « Parmi mes sentiments, je n'ai rien qui corresponde à ce que les gens entiers appellent l'amour. Si pour eux un sentiment comme l'amour a une telle importance, pour moi ce sera encore plus grand, ça correspondra à une passion magnifique et terrible. » Donc, il décida de tomber amoureux de Pamela. Cette Pamela, grassouillette et nu-pied, vêtue d'une petite robe rose toute simple, était vautrée à plat ventre dans l'herbe, somnolent, parlant avec ses chèvres et sentant le parfum des fleurs. Bon, je suis désolée, hein, c'est un peu conventionnel comme portrait, c'est même un peu machiste, il est quand même des années 50 ce vicomte. On continue. Les sentiments du vicomte, à peine formulés, il les exprima à Pamela. Il avait senti dans son sang un mouvement confus, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé précédemment, quelque chose comme une hâte apeurée, mais qui reposait quand même sur son raisonnement sur l'amour. Alors, il vit Pamela au milieu des marguerites, au milieu des prés, et bien sûr, il n'y avait plus que des moitiés de marguerites, il n'y avait plus que la moitié des pétales. Le restant des corolles avait été effeuillé dans un précédent passage. Mais tout de même, c'était vraiment joli de voir cette Pamela allongée dans le pré des nonnes, avec ses chèvres, avec ses canards qui étaient allés nager au bord de l'étang. Le pré était parsemé de blanches fleurs de marguerites et des blanches fleurs de panais qui avaient subi le même sort, bien sûr. Pamela était tout à fait désolée pour les fleurs. Il n'empêche que, tout de même, le vicomte s'approcha d'elle. Il la suivit jusqu'à la petite maison de Pamela qui était à ce point petite qu'une fois qu'elle y avait fait entrer les chèvres au premier étage et les canards au rez-de-chaussée, il n'y avait presque plus de place. Il y avait les abeilles à l'extérieur, dans les ruches, et il y avait des fourmilières aussi le long des murs. Mais tout cela était bien équilibré, c'était le domaine de Pamela. Elle entra dans cette maison, et le vicomte ne pouvait la suivre. Donc il resta sur la porte, et il ne coupa pas la porte en deux, puisque c'était la bonne moitié du vicomte qui avait suivi Pamela. Il resta là, tranquille, à dormir sur le seuil. Et le lendemain matin, il la rencontra alors qu'elle mettait le pied dehors. « Eh bien, Pamela, voilà, c'est moi, j'ai décidé d'être amoureux de toi. »« Comment cela ? » s'insurgea-t-elle. « Comment pouvez-vous dire que vous allez être amoureux de moi alors que vous martyrisez toutes les créatures de la nature ?»« Mais, Pamela, soupira le vicomte, nous n'avons aucun autre langage, je n'ai aucun autre langage pour te parler. Toute rencontre de nous deux ne fait que nous déchirer. Viens avec moi, viens au château, tu seras plus en sécurité, tu n'auras plus à travailler, et avec toi je suis sûre que je ne ferai pas de bêtises. » « Comment ça ? » dit Pamela. « Comment ça ? Vous me respecterez ? Alors que vous avez coupé en deux les marguerites, les panais, les méduses, les poires, les grenouilles ? Mais oui, je te respecterai. Toutes ces choses impossibles, horribles que j'ai faites, mais non, je ne les ferai pas avec toi. » Pamela n'avait pas confiance. Elle s'était étendue sur le pré, au milieu de ses chèvres et de ses canards. Médard s'était agenouillé près d'elle. Il gesticulait, il lui effleurait la main, mais presque sans la toucher. « Bon, allez, viens avec moi, lui dit-il. « Et puis tu décideras plus tard si tu veux rester ou pas au château. » Il approcha sa main, étroite et un peu crochue, de la main de Pamela. Mais cette main tremblait. Et finalement, pour elle, elle ne se rendait pas compte si c'était une caresse ou une égratignure. « C'est au château que je te veux, lui dit-il encore. » Il voulait la hisser sur son cheval. « Je vais faire préparer la tour et tu habiteras là. » Il éprena son cheval et quitta le pré. Le lendemain, Pamela monta comme d'habitude sur le mûrier pour cueillir les mûres. Et elle faillit tomber d'épouvante. Sur une branche haute, il y avait un coq attaché, mais une moitié de coq. Et les murs du mûrier, elles étaient toutes coupées en deux. Bon, eh bien, pas question de suivre Médard, décida Paméla. Et quand il arriva à la rencontrer dans son pré, et qu'il lui dit « Alors, tu te décides à venir au château ?» Paméla, étendue dans le pré, décida « Non, qu'elle n'irait pas. » « Je me suis décidée à ne pas y aller, dit-elle. Si vous me voulez, venez donc me retrouver dans les bois, venez donc me retrouver à la cabane, mais je n'irai pas au château. » « Tu viendras au château. La tour où tu dois habiter est prête. Tu en seras la seule maîtresse. Oui, vous voulez me garder prisonnière là-bas, et au besoin me faire brûler par l'incendie comme vous l'avez déjà fait pour d'autres. Non, je serai vôtre si vous voulez, mais ici, dans le pré ou sur les aiguilles de pin. » Le vicomte s'était accroupi près de la tête de Paméla. Il avait retiré une aiguille de pin qui s'était accrochée dans ses cheveux. Il avait passé sa main autour de son cou. Paméla sentit la chair de poule, mais elle ne broncha pas. Elle voyait le visage du vicomte penché sur elle, un profil qui restait de profil, même vu de face, et une demi-rangée de dents qui découvrait un sourire en ciseaux. Mais, il continuait à dire, c'est enfermé au château que je veux t'avoir, enfermé au château. Et là, Paméla comprit que vraiment, ce n'était pas possible. Toutefois, peut-être, elle pourrait essayer. Alors, à la cabane, oui, mais au château, non. Et cette nuit-là, Paméla dormit dans son hamac, entre l'olivier et le figuier. Et au matin, horreur, elle trouva juste au pied du hamac une petite charogne d'écureuil fendue au long, comme toujours, avec une queue fauve intacte. Mais c'est tout ce qu'il restait d'intact à l'écureuil. Donc elle décida que non, elle ne suivrait pas le seigneur au château. Voilà, on va vous laisser là-dessus parce que on veut pas déflorer, comme on dit, la fin. Le vicomte a donc ses deux moitiés, mais tantôt l'une, tantôt l'autre, il n'est pas reconstitué. Il y a une moitié de bonté et d'amour, une moitié d'horreur et de vice et de violence. Et les deux moitiés, en fait, vivent des vies alternées. Donc, Paméla, pas idiote, comme on dit, finalement, c'est une image pas du tout soumise de la femme, Paméla. Paméla, pas idiote, disais-je, va pouvoir prendre le bon côté du seigneur amoureux et refuser le mauvais côté du seigneur violent. Et puis Paméla va retrouver Sébastienne parce que Sébastienne, un jour, sauve une moitié, on ne sait pas trop laquelle, du seigneur d'une morsure d'araignée. Donc, peu à peu, Sébastienne va enseigner à Paméla tout ce qu'elle sait sur la vie des plantes, la vie des petites bêtes, la vie aussi, bien sûr, des plantes médicinales, la vie qui entoure le domaine, la nature, les apports de cette nature qui permet finalement de triompher de l'horreur du vicomte pourfendu. Donc, on laisse le vicomte pourfendu, on laisse Paméla, on laisse Sébastienne. On peut se dire que finalement l'histoire va bien se terminer puisque c'est un conte philosophique et que vous savez un peu comme Candide, c'est quoi la formule de Candide ? Il faut cultiver son jardin ?
Ça finit pas très bien Candide.
Ça finit pas très bien Candide ?
Non. Mais à la fin, il y a... J'ai oublié comment il s'appelle, mais le philosophe qui est un peu dans l'idée « tout va bien dans le meilleur des mondes ».
Eh ben,
qui continuent de se persuader de ça, mais sauf que tout va mal parce qu'ils ont perdu les gens qu'ils aimaient et ils sont seuls. Et
c'est difficile.
Voilà.
Voilà. Donc, est-ce que ça finit bien ? Est-ce que ça finit mal ? Est-ce qu'on va être heureux dans le meilleur des mondes possible ? Est-ce que la seule façon, comme Candide, justement, d'être heureux, ça sera de retourner, entre guillemets, cultiver son jardin ? C'est un peu égoïste, hein, de la part de Voltaire de dire qu'on ne peut être heureux qu'en cultivant son jardin. Donc, non ! Nous, nous dirons que nous ne pouvons être heureux qu'en combattant. Et on va s'assurer un été marseillais de combat et vous retrouver un peu plus tard, au mois d'août sans doute. À bientôt, au revoir.